Le texte liturgique pour ce 14e dimanche après la Pentecôte, l'épître est tiré de l'épître de Saint Paul aux Galates au chapitre 5. Mes frères, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit va à l'encontre de la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont bien connues. C'est la fornication, l'impureté, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les discordes, les jalousies, les emportements, les cabales, les divisions, factions, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et choses semblables, au sujet desquelles je vous préviens, comme déjà je vous ai prévenu, que ceux qui les commettent n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence et la chasteté. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, mais ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. On se lève pour l'évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir de maître. » Car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et dédaignera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez donc pas inquiets pour votre existence, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous revêtirez. Est-ce que l'existence n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Est-ce que ne valez pas plus qu'eux? Et lequel de vous peut, en se tourmentant, ajouter à sa taille une seule coudée? Que vous inquiétez-vous alors des vêtements? Considérez les lys des champs comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent, et je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée dans le four, Dieu l'habille de la sorte, combien plus vous-même, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous mettre? Car c'est tout cela que les païens réclament, et votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez donc le royaume des cieux, sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Veuillez vous asseoir. Attention pour ceux qui sont au fond, de ne pas bouger les séparations. Non, il n'y a pas de problème, les séparations, parce que la caméra est accroché à la séparation, et si vous touchez les séparations, ça change l'angle de la caméra. Alors attention pour ceux qui viennent à la messe ici en semaine, pas de messe vendredi et samedi. Je vais pour ma mission à Andorre, comme une fois par mois. Donc j'ai publié aussi hier la lettre aux amis bienfaiteurs pour donner quelques nouvelles. J'en ai placé sous la fenêtre à l'arrière de la chapelle pour ceux qui n'ont pas eu. Donc, si vous l'avez reçu par boîte électronique, c'est que je n'ai pas votre adresse électronique. Et si vous l'avez reçu par courrier postal, si vous l'avez reçu par courrier postal, ça veut dire que je n'ai pas votre adresse électronique. Ce serait bien que j'ai l'adresse électronique de tous mes fidèles. Comme ça, je gagne du temps quand j'envoie ces papiers. Et si vous l'avez reçu, c'est que je n'ai pas votre adresse, tout simplement. Donc, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qui se peinent de ne pas avoir reçu la lettre aux amis bienfaiteurs, c'est tout simplement que je n'ai pas vos coordonnées. Aussi une chose importante, donc je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé pour remettre l'électronique en marche, l'informatique en marche, et un gros problème d'ordinateur, 15 jours, 3 semaines. J'ai dû changer d'ordinateur qui m'a lâché, et donc maintenant en principe les choses ont marché de nouveau. Je préviens aussi tous ceux qui se plaignent, parce que c'est souvent des plaintes que j'ai au niveau de la messe en vidéo, pour ceux qui me regardent à l'extérieur. Ils trouvent que la messe arrive trop tard en vidéo à 1h de l'après-midi. Sachez maintenant qu'on a fini un cycle d'un an. Donc si vous voulez avoir la messe plus tôt en famille, pour ceux qui n'ont pas de messe, qui souhaitent la regarder sur Internet, vous pouvez regarder la messe du 14e dimanche de l'année précédente. Elle est sur Internet, puisque maintenant il y a un cycle complet d'un an. La messe du jour sera en général sur Internet autour de 1h de l'après-midi. J'ai encore deux places pour les deux dernières retraites de l'année. Une place pour la retraite de septembre 13 au 18 et une place pour la retraite d'octobre 18 au 23. Donc je peux encore prendre quelqu'un. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, les deux textes liturgiques d'aujourd'hui sont à lire en parallèle. Saint Paul et Saint Matthieu disent exactement la même chose, heureusement d'ailleurs. On retrouve là un thème que j'ai déjà abordé plusieurs fois. C'est un thème tellement important que beaucoup des textes liturgiques, soit dans les épîtres, soit dans les évangiles, reprennent ce même thème. C'est un thème qui est difficile à accepter. On le comprend intellectuellement, mais dans la pratique, on a beaucoup de mal. Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il adorera le premier et haïra l'autre, ou il haïra le premier et adorera l'autre. Même sur l'abbé, vous avez déjà parlé de ça pour le dimanche de la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge. J'en ai reparlé pour le cœur immaculé de Marie. Et vous en reparlez aujourd'hui, ça fait beaucoup. Tout simplement parce que je suis les textes liturgiques. Ce sont des textes fondamentaux. Et saint Paul redit exactement la même chose. Il parle de ceux qui suivent les œuvres de la chair. Il a cette longue liste des œuvres de la chair qui est assez impressionnante. Fornication, impureté, impudicité, débauche, idolâtrie, maléfice, similitié, discorde, jalousie, emportement, cabale, division, faction, envie, meurtre, ivronnerie, orgie et choses semblables. C'est que ça, on n'a pas compris. Donc il y a d'une part ceux qui suivent les œuvres de la chair, et saint Paul nous dit, ceux qui commettent ces œuvres ne posséderont point le royaume des cieux. Et au contraire, la deuxième partie de l'épître, saint Paul nous donne la liste, ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est le plus haut niveau de la vie spirituelle. C'est ce qu'on appelle la couronne de la charité. Tout ce qui va avec la vertu de charité. La vertu de charité, c'est quoi? Je l'ai souvent expliqué, c'est l'amour du bon Dieu. La vertu de charité, c'est l'état de grâce, l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Donc celui qui a l'état de grâce a les fruits du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'état de grâce perd les fruits du Saint-Esprit parce qu'il perd la couronne de la charité. Et saint Paul nous donne ces fruits du Saint-Esprit, charité, joie, paix, patience, bénignité, bonté, longanimité, douceur, confiance, modestie, continence et chasteté. On voit très bien, pas besoin d'être très malin pour le voir, qu'il y a une opposition totale entre ces deux choses. On ne peut pas à la fois vouloir suivre les œuvres de la chair et les fruits du Saint-Esprit. On est bien obligé de faire un choix. Et ce choix est absolument fondamental, et c'est justement ce choix qui va faire les divisions entre les gens. Rappelez-vous ce texte que je vous ai déjà cité ces derniers dimanches, lorsque Dieu a parlé de la très sainte Vierge Marie à Satan, tout à fait au début de l'histoire du monde, après la prévarication d'Adam et Ève. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai une inimitié entre ton royaume et son royaume. » Entre l'église du démon et ceux qui suivent l'église du démon, et l'église de notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui suivent son église, avec la dévotion à notre Sainte Vierge Marie. Je mettrai une inimitié entre tes enfants et ses enfants. Notre Seigneur Jésus-Christ insiste lourdement sur ce texte. Dans d'autres textes parallèles, il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Rappelez-vous aussi le texte très connu de la prophétie de Siméon, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu porté par la très sainte Vierge Marie au temple de Jérusalem le 2 février. Saint Siméon, qu'est-ce qu'il va dire? Cet enfant sera un signe de contradiction, dit-il, entre pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas être neutre. Soit on l'utilise pour la résurrection, pour aller au ciel. Soit on le refuse et on va l'utiliser pour notre condamnation. Et aujourd'hui, je pense que les choses sont encore plus claires. On voit très bien cela dans les deux églises que nous avons en présence. Les gens souvent me posent cette question, les gens qui connaissent mal la situation, me disent, mais monsieur l'abbé, vous êtes catholique ou non? Ben oui. Donc vous êtes avec le pape. Mais attendez. Il y a deux églises en présence aujourd'hui. Il y a l'église catholique, une, sainte, catholique et apostolique, qui a 2000 ans d'âge. Il y a l'église de Vatican II. On ne peut pas appartenir aux deux choses à la fois. On ne peut pas à la fois avoir la main droite avec l'Église de Vatican II et la main gauche avec l'Église catholique. Il faut bien, on est bien obligé de faire un choix. Pas besoin d'être encore une fois très malin pour voir que l'enseignement des soi-disant papes depuis la mort du pape Pie XII en 1958 est totalement différent de l'enseignement actuellement de Rome. Et donc nous sommes obligés de faire un choix. C'est un choix qui est pénible pour tout le monde, commencé par moi. On est tous obligés de faire un choix comme cela. Et on le voit très bien, cette division, si vous voulez, terrible, on peut la voir aussi en matière politique aujourd'hui. Je m'excuse de réinsister sur ces choses, mais c'est très important de comprendre ces choses-là. On le voit très bien en France aujourd'hui, cette espèce de division en France entre ceux qui veulent la République laïque antichrétienne, parce que laïcisme, c'est ça, le laïcisme, c'est l'antichristianisme, c'est la même chose. Ça veut dire laïque. Ça veut dire je ne veux pas de Dieu dans la vie publique. On tolère notre Seigneur Jésus-Christ en privé. Voilà, quand vous dites votre prière, vous pouvez voter tous les matins, seul le gouvernement tolère, mais refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi du pays. Évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ est mis dehors, ce qu'on appelle le laïcisme, et comme la nature a horreur du vide, c'est démon qui prend la place. Donc il y a la République laïque antichrétienne d'un côté et la France catholique. Monsieur l'abbé, la France catholique, il n'y a plus grand monde dedans. Hélas, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire pour ça qu'il faut abandonner notre Seigneur? Rappelez-vous ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il y a 2000 ans, quand il a commencé à parler à ses disciples, à ses apôtres, du Saint-Sacrement, du Saint-Sacrifice de la messe, qu'il a expliqué à ses apôtres que le pain allait être changé au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le vin au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ont dit la plupart des gens qui l'écoutaient. Ces paroles sont dures à entendre et l'ont quitté. À tel point que notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à Saint-Pierre et vous allez partir aussi? Qu'a répondu Saint-Pierre? Où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Ces paroles sont toujours valables pour nous. Nous sommes obligés de faire un choix. C'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Rappelez-vous ces paroles de ce très bon philosophe belge, Marcel de Korte. Notre intelligence est en péril de mort. On peut aller plus loin en disant que ce sont les âmes aujourd'hui qui sont en péril de mort. Donc, où je suis les œuvres de la chair, condamnées par saint Paul, où je suis l'Église de Vatican II qui prêche les mêmes choses, pratiquement dans la vie pratique, c'est ce qui se passe, et à ce moment-là, ce sera la damnation. Ou au contraire, je suis les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, qui sont la conséquence des dons du Saint-Esprit, et je peux aller au ciel. Monsieur l'abbé, mais on sera tellement peu nombreux. Encore une fois, reprenez les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ? C'est pas moi qui parle, c'est lui. À la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi? Il a parlé d'un petit troupeau. Et reprenez, par exemple, certains enseignements aussi, qui ne sont pas les enseignements du magistère, mais qui sont aussi très importants. La petite Jacinthe à Fatima, qui a vu la Sainte Vierge en 1917 et qui est morte très, 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 très rapidement après. Qu'est-ce qu'a dit cette Jacinthe? Les âmes tombent en enfer comme les flocons de neige en hiver. J'aurais pas osé dire ça. Mais c'est ce qu'elle a dit. Monsieur l'abbé, c'est trop fort. À ce moment-là, si vous aviez entendu notre Seigneur Jésus-Christ vous dire « Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Nombreux sont ceux qui prennent la voie large qui mène à la condamnation. Et nombreux sont ceux qui la prennent. Et étroite et resserrée la voie qui mène au ciel. Combien peu nombreux sont ceux qui la prennent. » Nous aurions dit quand même, notre Seigneur Jésus-Christ exagère. Qu'est-ce que dirait notre Seigneur Jésus-Christ s'il venait ici? À ceux qui me disent que mes sermons sont trop exigeants, je leur dis, lisez donc un peu les sermons du Saint-Curé d'Ars. Et je veux dire, quand vous lisez les sermons du Saint-Curé d'Ars, vous direz, l'abbé Lafitte, il est bien libéral par rapport au Saint-Curé d'Ars. Et ce sont des choses fondamentales à comprendre. Ah mais monsieur l'abbé, encore une remarque qu'on entend beaucoup trop souvent, monsieur l'abbé, il ne faut pas trop en demander. Moi, monsieur l'abbé, je suis catholique à 95%. Cela dit, je suis sûr que notre Seigneur Jésus-Christ doit être très fier de moi parce que je suis catholique à 95%. Donc, cela dit, dans une journée de 24 heures, je suis notre Seigneur Jésus-Christ, je le reconnais comme mon Dieu pendant 23 heures, mais une heure par semaine, une heure par jour, monsieur l'abbé, je suis ma volonté propre. Et Dieu va être très content de moi, parce que quand même, pendant 23 heures sur 24, je suis notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ceux qui prétendent être catholiques à 95%, ceux qui prétendent ne suivre notre Seigneur Jésus-Christ que 23 heures sur 24, ne sont pas des mauvais catholiques. Ils ne sont pas catholiques du tout. Monsieur l'abbé, c'est exagéré. Alors, je vais prendre un exemple. Et quand j'explique ces choses-là, les gens ne comprennent jamais. Ils font semblant de ne pas comprendre. Alors, je prends un exemple que les gens comprennent beaucoup, beaucoup plus facilement. Imaginez deux personnes qui se sont mariées. Imaginez un mari qui dit à son épouse, « Je t'aime tout mon cœur. Tout mon cœur, et je te serai fidèle, sauf une heure par mois. Une heure par mois, j'irai avec quelqu'un d'autre. Mais je t'aime de tout mon cœur. » Connaissez beaucoup d'épouses qui diraient, oui, c'est quand même pas mal. Mon mari m'est fidèle tout le temps, sauf une heure par mois. C'est quand même pas mal, parce que tout le reste du temps, il m'aime. Vous n'avez pas besoin d'être saint Thomas d'Aquin, de connaître toute la théologie de saint Thomas d'Aquin par cœur, pour comprendre qu'une femme qui était exposée à ce genre de situation va dire à son mari, tu ne m'aimes pas. Ah, mais je te suis tout le temps, sauf une heure par mois. Oui, mais à cause de ce que tu fais une heure par mois contre moi, cela prouve que tu ne m'aimes pas. Vous voyez, c'est exactement ces textes liturgiques d'aujourd'hui. Il faut relire ces textes liturgiques. Donc saint Paul le dit bien, ceux qui suivent les œuvres de la chair c'est quoi? Relisez cette longue liste qui est impressionnante. C'est tous les péchés d'impureté, c'est les péchés d'orgueil, c'est les péchés de désir, etc. C'est les trois concupiscences, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil. En face, vous avez les dons du Saint-Esprit. C'est impossible, absolument impossible, malgré la meilleure bonne volonté du monde, de mettre ces deux conceptions de la vie ensemble. C'est impossible. On a beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens qui, par exemple, vont me dire la bouche en cœur, « Monsieur l'abbé, comprenez, le dimanche, je suis catholique de 10h à midi. » Mais monsieur l'abbé, l'après-midi, vous comprenez, moi je suis dans le monde, alors je vais en bikini sur les plages de la Côte d'Azur. Mais attendez, il n'y a pas une contradiction là. Hein, monsieur l'abbé, il faut un temps pour tout. Ça, j'entends ça tout le temps. Comprenez, le 10h à midi, monsieur l'abbé, alors là, c'est impeccable, j'écoute bien soigneusement le sermon Laver la vitre, même si je ne suis pas d'accord, et puis je suis bien habillé, et puis je me comporte comme une catholique, je vais communier les mains bien jointes, tout va bien. Mais monsieur l'abbé, pendant la semaine, ou l'après-midi du dimanche, je sers un autre Dieu. Et ce sont des choses absolument fondamentales à comprendre. Et c'est ça le drame. C'est pour ça qu'il y a deux églises. L'église de Vatican II, c'est quoi? L'église de Vatican II, c'est l'église du monde. C'est l'église des gens qui veulent à la fois plaire à notre Seigneur Jésus-Christ et à la fois plaire au monde. C'est l'église du mari qui dit à son épouse, je t'aime de tout mon cœur, sauf une heure par semaine ou une heure par mois. Et c'est ça qui explique justement cette cassure. Cette destruction à la fin du règne du pape Pie XII en 1958, lorsque le Jean XXIII est arrivé, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'il y avait une impossibilité de mettre ensemble l'esprit du monde et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour supprimer cette contradiction, il s'est simplement coupé de l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un autre conseil que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut bien comprendre, c'est la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Le mot important, c'est le mot d'abord. Souvent, j'ai remarqué, nos fidèles comprennent de travers cette phrase. Notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas « Ne cherchez que le royaume des cieux et vous occupez pas des choses matérielles ». C'est pas ce qu'il dit. Il dit chercher d'abord, primum querite. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par ce quoi. Utilisez votre intelligence, votre âme, pour d'abord assurer les choses importantes, et ensuite vous pourrez vous occuper des choses secondaires. Quelle est la chose importante dans ma vie? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pour 80, 90 ans, un peu plus ou un peu moins? Je suis sur la terre pour sauver mon âme. Rappelez-vous la première phrase des exercices de Saint Ignace. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Donc je suis sur la terre pour cela. Je suis sur la terre pour sauver mon âme. C'est la chose importante. Et une fois que j'ai assuré la chose importante, à ce moment-là, je peux m'occuper du reste. Il faut respecter cette hiérarchie des valeurs. L'âme est plus importante que le corps. C'est ce que dit Saint Matthieu dans ce magnifique évangile que je viens de vous lire. Il explique que les fleurs des champs, le bon Dieu s'en occupe, les oiseaux du ciel, le bon Dieu les nourrit. Voici s'occupe des fleurs des champs, des lys des champs et des oiseaux dans le ciel, mon Dieu ne va pas nous abandonner quand même. Alors que nous sommes ces créatures raisonnables. Les oiseaux du ciel, il n'en vient même pas à l'idée de désobéir à la loi du bon Dieu. Ils ont un instinct, au moment où la racine a dit, maintenant il faut construire le dit, il n'y a pas d'oiseaux qui disent, oh, moi ça ne me plaît pas de construire mon nid à cette heure-là, j'irai construire mon nid le mois suivant. Non, il obéit à son instinct et il construit son nid. Ben, c'est pareil pour tout. Mais malheureusement, nous on a été créés avec un don extrêmement dangereux que n'ont pas reçu les oiseaux, le don de la liberté. Le don de la liberté. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que malheureusement, ce don de liberté nous fait que nous ne sommes pas des robots. Ça, c'est bon. Mais malheureusement, ce don de la liberté nous permet aussi de refuser de nous soumettre à la volonté divine. Donc, il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Alors, attention, je voudrais mettre les choses en place là-dessus pour que les choses soient claires, parce que j'ai entendu beaucoup de problèmes parfois avec des fidèles qui comprennent mal ces choses-là. Et souvent, les gens vont manquer leur devoir d'État. Imaginez un père de famille, pour reprendre l'exemple d'un père de famille, qui se dit, bon, moi je m'occupe, la belle fille a dit qu'il fallait chercher le royaume des cieux. Donc je m'occupe de vérifier que je vis en état de grâce, que ma femme vit en état de grâce, que mes enfants vivent en état de grâce, et puis je ne m'occupe pas du reste. Autant pis si on meurt de faim, le bon Dieu pourvoira. D'abord, la belle fille nous a dit que les oiseaux du ciel, le bon Dieu s'en occupait, que les lys des champs, le bon Dieu s'en occupait. Donc, je ne m'occupe pas de chercher à travailler et je m'enferme au fond de ma cave à prier le rosaire toute la journée et à lire des livres pieux. Et puis, c'est tout. Et le bon Dieu s'en occupera. Et si on meurt de faim, ce sera la faute de la belle fille qui nous a raconté des balivernes. Pas comme ça que ça se passe. Le père famille doit aussi s'occuper de son devoir d'état matériel. S'occuper de soutenir la famille financièrement, s'occuper de l'éducation des enfants et tout le reste. J'ai connu des familles comme ça. Pas donné de nom, mais j'ai connu en Nouvelle-Zélande. J'ai connu une famille comme ça. Donc ils s'occupaient énormément des choses spirituelles, ils ne s'occupaient plus que de ça. Donc les enfants connaissaient, priaient beaucoup, c'était des bons enfants, une bonne famille d'ailleurs. Et les parents s'occupaient beaucoup de catéchisme pour les enfants. Ils s'occupaient de deux choses, du catéchisme et la musique. La bonne musique en plus. Les enfants étaient très doués en musique. Mais à côté de ça, les parents s'occupaient de rien. La maison était une pagaille monstre. Une maison dégoûtante, il y avait les poules dans la maison, de la paille dans la maison, c'était dégoûtant. Les parents ne s'occupaient que du spirituel. Eh bien, ce n'est pas ce que nous demande le bon Dieu. Le bon Dieu nous demande de nous occuper du spirituel d'abord, mais ne pas oublier aussi les choses matérielles. Donc les parents ont aussi le devoir d'apprendre à leurs enfants d'utiliser correctement leur intelligence, de nourrir leur intelligence avec les choses de Dieu, bien sûr, mais aussi avec les choses matérielles qu'ils doivent connaître pour pouvoir remplir leur devoir d'état matériel dans leur journée de tous les jours. Et comment il faut être équilibré, mes bien chers frères, dans ce domaine. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, on vit dans une époque qui est de plus en plus difficile. Bien, c'est sûr, parce que soit je suis les œuvres de la chair et ainsi je ne pourrais pas posséder les royaumes des cieux, et au contraire, si je suis les dons du Saint-Esprit, qu'est-ce que nous dit notre Seigneur pour ceux qui suivent les fruits de l'Esprit, qui acceptent les fruits de l'Esprit? Ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Donc si je garde avec moi dans mon âme l'état de grâce, la couronne de la charité, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit cités par Saint Paul, eh bien je serai maître de mes passions de mes passions et de mes convoitises, et je serai capable de rester en état de grâce. En demandant, mes bien chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses qui ne sont, qui sont pas des choses faciles à comprendre. Je reconnais, c'est vraiment un problème. On touche là la raison même de cette dualité dans laquelle nous sommes obligés de vivre aujourd'hui. Ces deux mondes qui s'opposent parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc je ne peux pas avoir la main gauche avec le monde moderne et la main droite avec notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans ce cas-là, je suis un traître. On vit une époque extraordinaire aujourd'hui. Et vous et moi, bien chauffeurs, on a un choix. Soit nous devenons des traîtres, soit nous devenons des martyrs. Soit nous devenons des traîtres, soit nous pratiquons l'héroïsme de la foi. Imaginez, vous viviez sous Saint-Louis. Avouez que c'est quand même plus facile de rester en état de grâce sous Saint-Louis que sous Macron. Pas tout à fait la même chose. Bon, sous le Saint-Louis, bon, il y avait des prêtres partout, il y avait des religieuses partout, il y avait des couvents partout, vous faisiez 500 mètres et vous avez une église. C'était relativement facile pour les gens du XIIIe siècle sous Saint-Louis de vivre en état de grâce. Mais bon Dieu n'a pas voulu vous faire naître sous Saint-Louis, il a voulu vous faire naître aujourd'hui au XXIe siècle. Il a ses raisons pour ça. Et puisque le bon Dieu a voulu nous faire naître dans un siècle beaucoup plus difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu est obligé de vous donner, de me donner les grâces dont vous avez besoin, dont j'ai besoin pour rester en état de grâce et garder avec moi les fruits du Saint-Esprit. Sinon, cela voudrait dire que le bon Dieu me demande quelque chose d'impossible. En demandant à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses. Elle-même, elle n'avait pas tout compris au début. Lorsqu'elle a retrouvé son fils, par exemple, à 12 ans, imaginez un peu. Elle va à Jérusalem avec Saint-Joseph. Son fils reste au temple sans prévenir ses parents. Il commence à enseigner les docteurs. Pendant 3 jours, ils ont cherché leur enfant. Imaginez une mère de famille qui part dans une grande ville, qui perd son enfant de 12 ans et qui met 3 jours à le retrouver. Imaginez un peu la tête de la maman et des parents. Ils ont dû se faire un sang d'encre. Au bout de 3 jours, ils le retrouvent. Et ils font une espèce de reproche à notre Seigneur. Votre Père et moi, nous vous cherchons tout affligés. Et notre Seigneur Jésus-Christ leur fait une remarque qui est un peu sèche. Il a fait comprendre qu'il doit être aux affaires de son Père. Et là, il y a cette petite phrase, Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Quand est-ce qu'elle va comprendre? Elle va comprendre le Vendredi Saint, le pied de la croix. Elle va finir, elle va comprendre complètement le jour où elle recevra les dons du Saint-Esprit avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Ah, même chez l'abbé, la Sainte Vierge, elle savait tout. Non, la Sainte Vierge n'avait pas la science infuse, attention. Contrairement à ce que racontent certains traditionnalistes. La Très Sainte Vierge Marie avait cette confiance absolue en son divin fils. Pas une seule seconde, elle a douté. C'est un des blasphèmes de Bergoglio. La Sainte Vierge a douté, elle n'a jamais douté. Même quand elle ne comprenait pas tout, elle n'a jamais douté. Même quand elle voyait son fils exsangue sur la croix le Vendredi Saint, et quand elle voyait que tous les apôtres étaient partis, elle a tout abandonné, sauf Saint Jean qui était avec elle, elle n'a pas une seule seconde eu un doute, parce qu'elle savait, elle était la seule à ne pas l'avoir oublié, que son fils ressusciterait le troisième jour. En demandant à notre Sainte Vierge Marie de nous donner sa confiance, de nous donner sa force. Elle est forte comme une armée rangée en bataille. Elle est chef de guerre et c'est elle qui vous donnera, qui me donnera, qui nous donnera à tous les grâces dont nous avons besoin pour garder la foi et la transmettre à ceux dont nous avons la charge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.